Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 30 janvier 90.
Recherche de la personne chez sa dame. Là, une recherche qui serait très importante à bien faire parce que elle nous permettrait, je crois, de saisir ce passage de Thomas d'Aquin, disciple d'Albert le Grand, et ensuite, grâce à Aristote, arriver à une conception de la personne beaucoup plus métaphysique. Au fond, ça t'avance. Serait le premier, je crois, à avoir une conception métaphysique de la personne. Grâce, il faut le dire, grâce à ses études théologiques. Alors vous voyez, c'est là le lieu pour ceux qui s'intéressent à la métaphysique chrétienne ou à la philosophie chrétienne. C'est le lieu où il faudrait étudier avec beaucoup de précision ce que cela veut dire. Parce que c'est très vrai. C'est la révélation qui oblige d'avoir un regard sur Dieu beaucoup plus personnel. Aristote voit Dieu d'une manière métaphysique, l'acte pur, d'une manière éthique, la pensée de la pensée, donc contemplative, d'une manière politique, Dieu gouverne le monde, mais il n'arrive pas saisir, du reste, c'est la limite de sa métaphysique, à découvrir comment l'acte pur, contemplation de la contemplation, gouvernant le monde dans sa sagesse, à découvrir ce qu'il est. Sa manière d'exister, sa manière d'être. On l'a vu, le mot « personne » n'est pas présent dans sa philosophie. La réalité y est. Et je crois qu'on peut dire que même dans son regard sur Dieu, le mystère de la personne de Dieu est présent. Pour parler de la contemplation de Dieu, il faut atteindre Dieu comme une personne. Pour parler de l'amour à l'égard de Dieu, il faut parler de Dieu comme une personne. Il découvre un certain amour à l'égard de Dieu. La révélation nous parle de Dieu qui nous parle. Donc c'est tout de suite une personne. C'est un dialogue. Je suis. Le « je suis » est très significatif. Nous aurons l'occasion d'y revenir, du reste. C'est Dieu qui se nomme. Nommer quelqu'un. Alors, tout le lien entre le nom et la personne. On ne l'a pas vu, ça. Il serait intéressant de voir quel est le lien entre le nom et la personne. Parce qu'au fond, il n'y a qu'une personne qui a un nom. Quand vous donnez Médor, c'est vous qui de l'extérieur lui donnez une certaine personnalité. Médor n'est pas Azor. C'est comme quand vous lui mettez un petit habit. C'est de l'extérieur. c'est la même chose. C'est une espèce de dénomination extrinsèque. Et ne se nomme pas. Je suis Azor. Se nomme pas. Il ne se présente pas, oui. Se présenter, c'est la personne qui se présente. Il y a tout ça à voir. Or, de fait, l'écriture parle toujours du nom, du nom, du nom. Et les théologiens diront in persona Christi. Agir in persona Christi. Oui, tout ça se tient. Il y a là quelque chose qui est très difficile à préciser, parce que justement, c'est ineffable. Demandez à Dieu de se nommer, quel est votre nom ? Et Dieu prend le nom le plus commun, je suis, pour montrer ce qu'il est. Et la révélation dans son ultime pointe dira Dieu est amour. Et cette manifestation se fera à la croix. Alors on comprend très bien qu'un saint Thomas qui nous donne un traité de Dieu très unique, toutes les manières d'exister de Dieu, là, on voit que sa métaphysique est pleinement à l'œuvre. Dieu tout à fait simple, Dieu parfait, Dieu bon, Dieu infini. Sa métaphysique est pleinement à l'œuvre dans le traité du Te Deum. Quand saint Thomas va de fait regarder le mystère de l'incarnation, le mystère de la très sainte Trinité, il devra expliciter à la suite des pères grecs et des pères latins ce qu'est la personne de Dieu. Et je crois que c'est là où il y a eu un effort de saisir comment la personne peut être regardée d'une manière analogique. Or, si elle est regardée de manière analogique, si on va aller jusqu'au bout, il faut regarder le point de vue de l'être et des transcendentaux. Des notions tout à fait premières qui sont les plus analogiques. Je crois que c'est ça qu'on doit essayer de découvrir. Comment, de fait, la révélation a exigé le théologien d'avoir une notion métaphysique de la personne. Je crois que c'est ça qu'il faudrait regarder. Comment, de fait, la révélation a obligé le théologien d'avoir une notion métaphysique de la personne. Mais cette notion métaphysique de la personne, elle est saisie par la métaphysique, elle n'est pas saisie par la foi. Mais de facto, la foi a obligé le philosophe d'aller jusqu'au bout de son regard. C'est pas la foi qui me donne une nouvelle notion de la personne. C'est la foi qui m'oblige d'aller jusqu'au bout de la métaphysique. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que ça montre le lien entre la métaphysique et la foi. Mais pas la métaphysique qui dépend de la foi dans sa conception métaphysique, mais le fait de la révélation qui oblige le métaphysicien d'aller jusqu'au bout. Ce que je crois. Alors, essayons de regarder, on reviendra après, parce que c'est très important, je crois. Je crois que c'est l'arrêt. Si on pouvait montrer ça, ce serait très important, parce qu'on montrerait que la métaphysique de saint Thomas qui a dépassé d'une certaine manière, sur certains points, la métaphysique d'Aristote dans l'explicitation. Ces points proviennent de la révélation, c'est-à-dire ces points ont été obligés d'être précisés par la révélation. Il y a la personne et la bonté. Je crois que c'est les deux grands points sur lesquels nettement la métaphysique de saint Thomas a des explicitations nouvelles par rapport à Aristote. Alors, je continue de regarder ce qu'est la personne. Puisque la personne signifie ce qui est le plus parfait dans toute la nature, subsister dans la nature rationnelle, on peut l'attribuer à Dieu, du fait que son essence contient toute perfection. Toute perfection pure est attribuable à Dieu. Selon l'origine sémantique, le mot de personne ne peut convenir à Dieu. Mais selon l'usage de la signification du mot, c'est différent. Le mot personne, en effet, indique une dignité, car il est d'une très haute dignité de subsister dans une nature intellectuelle. Le mot personne convient donc parfaitement à Dieu. En répondant à une objection selon laquelle la définition de la personne donnée par Boèce ne pourrait pas convenir à Dieu, saint Thomas montre que les expressions rationalis naturae, en comprenant rationalis comme intellectualis, individuum uniquement en tant qu'impliquant l'incommunicabilité, et substantia en tant qu'elle signifie exister par soi, peuvent convenir à Dieu. Voyez les trois grandes purifications. Donc, prima pars, question 29, article 3. Je crois que ça, c'est le lieu du passage de Boèce à la définition métaphysique de la personne. Et le passage rationalis, intellectualis, individuum, incommunicabilité, substantia, cause par soi, exister par soi, peuvent convenir à Dieu. Il ajoute que, cependant, certains ont dit que la définition de Boèce ne pouvait pas convenir aux personnes divines. Non est definitio personae secundum quod personas in deo digimus. C'est pourquoi Richard de Saint-Victor, voulant corriger cette définition, a dit que la personne, selon qu'elle est dite de Dieu, est une existence incommunicable de nature divine. C'est à la quatrième réponse. C'est intéressant parce que Richard de Saint-Victor, 11e siècle, fin de 11e, un augustinien, montre comment lui-même sent qu'il y a le passage de la personne selon Boèce à Dieu, et qu'on ne peut pas attribuer la définition de Boèce à Dieu. Elle est trop liée à la logique. La logique ne nous dit rien de Dieu. Donc je ne peux pas attribuer quelque chose de logique à Dieu. D'où la nécessité de la transformation. Remarquez que c'est sûrement une arête, là. Évidemment, Dieu est dit donc personne selon un mode plus excellent. Oui, alors, notez encore ce petit principe que donne saint Thomas toujours. Question 29, article 3, où saint Thomas a la seconde réponse. Saint Thomas distingue ici, à propos de la personne, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment toujours à l'égard de la personne passage. Dernier. Logique métaphysique. Signification du mot, l'usage du mot et son aspect proprement d'origine. Saint Thomas nous dit qu'il faut distinguer id aquo imponitur nomen et id ad quod significando imponitur. Donc, cela à quoi le nom est imposé, à quoi, par quoi est imposé, et cela ad quod significando imponitur. Donc, c'est intéressant comme petite distinction. Le à quoi et le ad quod. Donc, id, cela à quoi imponitur nomen.
C'est tout l'aspect de la dignité, donc le sommet, la cause
aux exemplaires, le sommet, les magistries. Donc celui qui est le maître, les hommes qui ont une réputation auprès du politique. Alors c'est le mot personne qui est lié à cet aspect de dignité. Saint Thomas précisera à l'article suivant ce qui caractérise la personne divine en Dieu. Personne et individu ne font qu'un. La personne de Dieu est donc son essence, sa nature, mais elle diffère selon le modus significandi, selon la manière de signifier. La personne signifie par mode de subsistance. Alors ça, c'est aussi très curieux, hein. Vous comprenez ? Pour nous, pour l'homme, il y a une différence entre l'essence et l'individu. Il y a une différence entre la nature humaine. Nous avons tous la même nature humaine. C'est sûr. Je ne peux pas dire que j'ai plus la nature humaine que vous. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez plus que moi. Parce que vous êtes un peu plus évolué. C'est vrai, vous êtes plus évolué puisque vous arrivez à la fin du siècle. C'est pas parce que vous êtes, au point de vue du temps, un peu plus évolué, que la nature humaine est plus parfaite en vous. Elle est la même. Elle est la même. J'ai la même nature que Marie et que le Christ. Ça, c'est plus important que pour vous. Dans le Christ, la nature humaine a été parfaitement réalisée, mais c'est la même. Il y a une distinction entre nature et individu. Au point de vue individu, vous êtes unique, et moi aussi. On a ce privilège. Chacun chez soi, hein, point de vue individu. Et puis, au point de vue de la nature, tout le monde avec tout le monde. La vie commune et la vie solitaire. Vous voyez bien. L'individu, il est toujours solitaire, il est unique, incommunicable. Il y a toujours en vous quelque chose d'incommunicable. Et quand vous voudrez avoir une ouverture du cœur parfaite, il y a l'incommunicable. Tout ce que vous vivez d'une manière unique. Votre exister. C'est l'individu qui existe. Seul l'individu existe. La nature humaine, comme telle, je la pense. Elle est réelle. Mais c'est un principe. Elle n'existe pas. Oui. Seule elle existe. Pourtant, quand il s'agit d'en Dieu, nature et individu sont un. Tu es unique dans sa nature et dans son individu. La première question de la somme, la question 3 de la somme sur la simplicité de Dieu. Dieu est absolument simple, donc en lui, pas de distinction entre individu et nature. Le quo et le quoi. Ça exprès pour vous habituer. Le quad, c'est l'individu. Le quoi, ce par quoi l'individu est. Non, vous existez comme une personne humaine. Vous existez comme une nature humaine. Et non pas comme un pigeon. C'est comme une nature humaine. Remarquez qu'il y a des individus qui sont comme des pigeons, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Hein. Ou comme des moineaux, si vous aimez mieux, tu vois. Dis-moi nous, mais on existe par notre nature humaine, le coup, par notre nature humaine. Et on est un quad, on existe, incommunicable. Vous avez ce privilège d'être incommunicable. En Dieu, nature et individu sont les mêmes. Mais comme notre langage, se prend des réalités physiques. Mon langage est un langage d'homme. C'est en me regardant que je parle. Ou en regardant le voisin. Mais le voisin et moi, il y a la même distinction. Alors, il y a les noms abstraits et les noms concrets. Abstraits pour exprimer les principes. Et c'est pour ça que saint Thomas nous dit que c'est ça qui est intéressant, point de vue du langage, quand il nous dit que en Dieu, personne et individu ne font qu'un. La personne de Dieu est donc son essence, sa nature, mais elle diffère selon notre manière de signifier. La personne signifie permodum subsistentis, c'est-à-dire d'une manière concrète. L'essence, la nature, est exprimée de façon abstraite, et la personne par mode de subsistance. Par mode de subsistance, parce que la seule chose qui existe, c'est justement l'individu. Le nom propre de chaque personne divine signifie ce par quoi cette personne est distincte des autres, l'individu. Chaque personne en Dieu est unique. Et cependant, chaque personne en Dieu ne fait pas nombre avec sa simplicité absolue. Le nom propre de chaque personne divine signifie ce par quoi cette personne est distincte des autres. Ainsi, c'est la paternité qui distingue le Père des autres personnes divines. Je vous cite saint Thomas. La personne divine étant infinie, on ne peut rien lui ajouter. C'est le propre de la personne divine, à cause de son infinité, qui se fasse en elle un concours de nature, non accidentellement, mais selon la subsistance. Dans le Christ, la nature divine constitue la personne divine de façon absolue, ce que ne fait pas la nature humaine. En Dieu seul, il n'y a pas d'essai de la personne qui soit autre que l'essai de la nature. Aussi quelque chose de très très mystérieux, vous voyez. C'est ça qui est très difficile pour nous. C'est, on touche le mystère, forcément. Nature divine, individu, personne. Parce que la personne est toujours l'individu. La personne seule existe pour nous. La nature n'existe pas. En Dieu, la nature s'identifie à la personne. Et donc la nature et la personne existent. Mais dans mon langage, puisque mon langage implique l'abstrait et le concret, le mot personne est signifié per modum subsistentis, par mode de subsistance, ce qu'il y a de plus concret, ce qu'il y a d'ultime. Et le mot nature exprime quelque chose d'abstrait. Mais c'est très intéressant de voir que on est obligé, quand il s'agit de la personne, et de parler de la personne de Dieu, de faire toutes ces distinctions. Dans le traité de l'incarnation, saint Thomas poursuit son analyse de la personne. Il commence par rappeler qu'elle signifie autre chose que la nature pour nous. Et pour le montrer, il rappelle la distinction entre nature et suppos. Le suppos est pris comme un tout, ayant une nature comme partie formelle, et capable de le perfectionner. Donc le suppos est ut totum, comme tout. Et la personne est toujours prise comme un tout. Or, ce qui est dit du suppos doit s'entendre de la personne dans les créatures rationnelles ou intellectuelles, puisque la personne n'est autre, selon Boès, une substance individuelle d'une nature rationnelle. donne une signification métaphysique, ce que vous avez vu la dernière fois. Donc, retenez ça, ce passage de la personne au suppôt, qui permet à saint Thomas d'affirmer que la personne est un tout. On pourrait le faire autrement, vous voyez, c'est que c'est la personne, on dirait, qui est le sujet juridique. C'est la personne qui est responsable de ses actions. Vous ne dites pas que c'est votre nature humaine qui est responsable de vos actions. Vous écoutez le cours maintenant. Vous allez manger tout à l'heure. C'est votre personne qui est responsable de vos diverses activités. Et c'est votre personne qui fait l'unité de ces diverses activités. Ce n'est pas votre nature. Quand vous écoutez le cours, quand vous mangez, c'est la même personne. Du moins, j'espère. C'est le même individu, mais c'est des parties tout à fait différentes de vous. La personne est un tout, le suppôt, c'est ça le suppôt. Le suppôt, c'est un terme chez saint Thomas qui est très curieux, c'est autotum. Le suppôt est pris comme un tout. Toutes les activités sont rapportées au suppôt. C'est la personne qui est responsable de ses activités, c'est pas la nature. Mais le point de vue juridique, il y a tout un point de vue juridique qui serait très intéressant. Je ne l'ai pas ici, mais Alcuin, qui est un juriste, qui a tout un traité sur la personne, et je suis persuadé que là, il y a quelque chose d'intéressant au point de vue juridique et au point de vue philosophique. Parce que la personne, la dignité, la personne est le lieu de la responsabilité. C'est pour ça qu'on parle d'une personne juridique. On ne parlera pas d'une nature juridique, mais d'une personne juridique. Pourquoi ? Responsable, comme un tout, responsable de ses diverses activités. Et la personne juridique, c'est le lieu de la responsabilité, le lieu de la dignité, puisque responsabilité et dignité, ça se touche. Quand vous perdez toute votre responsabilité, vous avez perdu la dignité de votre personne. Donc, alors, ce passage que fait saint Thomas ici, qui est très curieux, le point de vue du tout. Or, ce qui est dit du suppôt doit s'entendre de la personne dans les créatures rationnelles. Et saint Thomas précise, en réponse à une objection concernant la personne du Christ, que la personnalité nécessairement fait appel à la dignité d'une réalité. Et à sa perfection dans la mesure même où il appartient à la dignité et à la perfection de cette réalité, que celle-ci existe par soi. La dignité de l'être, c'est d'exister par soi. C'est la substance. C'est ce qui subsiste. Vous voyez, là, le passage de l'éthique à la métaphysique, hein, c'est intéressant. Ce n'est pas n'importe quel individu dans le genre substance, même dans la nature rationnelle, qui a la raison de personne, mais seulement ce qui existe par soi et non ce qui existe dans un autre plus parfait. Ainsi, la main de Socrate est quelque chose d'individuel, mais n'est pas une personne, parce qu'elle n'existe pas par elle-même. La main de Socrate n'existe que grâce à Socrate. Mais dans le tout, aussi dit-on que la personne est une substance individuelle. La main n'est pas une substance complète, mais une partie de la substance. Ceci pour essayer de comprendre dans le mystère du Christ les deux natures. Oui. Et l'unique personne. C'est pour ça qu'il développe ça. Il y a une personne et deux natures parfaitement individuelles, nature divine, nature humaine. Et cette nature humaine a été formée par l'Esprit Saint en Marie, et elle est parfaitement individuée. Et malgré qu'elle soit parfaitement individuée, elle n'est pas une personne. Alors qu'on a dit précédemment que l'individu est la personne. Hein ? Vous voyez ? c'est la personne. C'est Dieu. Dieu, c'est l'individu le plus individué qui soit. Il n'y a pas une personne plus individuée que Dieu. Et c'est sa personne. Donc en Dieu, individu et personne ne font qu'un. Dans le Christ, individu et personne sont deux. La nature humaine dans le Christ est parfaitement individuée. Mais elle n'est pas une personne. La personne, c'est le Verbe. Pourquoi n'est-elle pas une personne? Alors saint Thomas prend la raison. La main de Socrate n'est pas une personne. Parce que la personne, c'est le tout qui a la responsabilité de ses activités. La main de Socrate n'a pas la responsabilité de ses activités en dehors de sa relation à Socrate. Donc l'individu n'est pas la personne. Nous reverrons ça avec Maritain. C'est très curieux, parce que c'est là où Maritain s'explique. Il faut bien comprendre ça. C'est ce que dit ici saint Thomas. Et ça, c'est très intéressant. La nature humaine, dans le Christ, n'est pas une personne. La nature humaine, dans le Christ, bien qu'elle soit parfaitement individuée, elle a une ressemblance avec sa mère. Aucun individu n'a été aussi semblable à sa mère que la nature humaine du Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul atavisme. Tandis que pour nous, c'est toujours dans l'individu que l'atavisme se fait. Hein. Il y a un courant de droite, un courant de gauche, et ça fait une unité, on ne sait pas très bien comment. Mais c'est comme ça que ça se fait, hein, l'embryon. Ça se voit très fort quand c'est l'Asie et l'Afrique, quand c'est l'Asie et l'Europe, le haut de la figure est asiatique, le bas est européen. Ça fait une synthèse individuelle très particulière, quelquefois d'une richesse étonnante. Parce que c'est vrai, deux torrents qui se rencontrent, c'est impétueux. À ce moment-là, il y a comme à la piscine de Bethsaida, et tout se guérit. Si on descend au bon moment. Alors, il faut bien comprendre que l'individu comme tel n'est pas la personne. Et vous voyez, alors c'est là où, si on prend matériellement saint Thomas, on dit, mais il est en contradiction avec lui-même. Il a dit dans le traité des Deono que individu et personne en Dieu, c'est qu'un. Et puis il dit ici, que nature individuelle et la personne, c'est pas la même chose. C'est pas gênant du tout, si on comprend. Si on ne comprend pas, le philologue sera devant deux affirmations contradictoires. Individu, personne, c'est la même réalité. Individu, personne, c'est pas la même réalité. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous savez plus très bien ce que vous dites. Le théologien ne sait jamais très bien ce qu'il dit, il ne va jamais l'oublier. C'est jamais très bien, il tâtonne, comme dit saint Augustin, il dit « Ah, ah, ah !» Il tâtonne. Parce que quand il s'agit du mystère de Dieu, quand il s'agit du mystère de la très sainte Trinité, quand il s'agit du mystère de l'incarnation, il a trois langages différents. C'est extraordinaire, ça. Et c'est vrai, il a trois langages différents. Et ceci se voit directement au niveau de la personne. Alors il faut être très attentif. Donc la main de Socrate n'est pas Socrate. Ça, vous êtes tout à fait d'accord. Eh bien, c'est très intéressant pour voir que la nature humaine dans le Christ n'est pas la personne du Christ. La main de Socrate servira au moins ça éternellement, à montrer que la nature humaine, individu dans le Christ, n'est pas la personne. La personne humaine est constituée de l'union de l'âme et du corps. Car dans l'homme, l'âme et le corps sont unis de manière telle qu'ils existent par soi, ce qui n'est pas le personne du Christ. L'âme du Christ est créée par Dieu dans son corps et son âme subsiste dans le Verbe. Et le Verbe, c'est la personne unique du Christ. Mais on touche le mystère, là. On le comprend pas, hein. On le touche. On voit où le mystère est. C'est que dans le Christ, il n'y a qu'une seule personne, et deux natures. Et deux natures parfaitement individualisées. C'est à la personne qu'il convient en propre d'agir, proprié, comme le suppôt. Il est responsable. Dans sa théologie morale, saint Thomas considère avant tout la personne comme sujet des actes humains. Et une personne, nous l'avons vu, celui qui possède un dominium sur ses propres activités. Donc, il y a deux affirmations dans saint Thomas qui sont très très nettes à propos de la personne. La personne, c'est celle qui a le dominium. Donc là, on touche la dignité. Et la personne existe par soi. Métaphysique, le point de vue éthique. Le point de vue métaphysique, elle existe par soi, donc elle subsiste. La personne, c'est ce qui subsiste. Elle existe par soi. Ça, c'est la métaphysique, hein. Exister par soi. Voyez bien que exister par soi, c'est une manière particulière d'être, d'exister. C'est exister d'une manière primordiale, fondamentale. C'est ne dépendre de personne d'autre. La personne, comme personne, elle est par soi. Et le dominium, l'intimité dominium à l'égard de ses activités. C'est le lieu de la responsabilité. Donc le lieu de la moralité. On est responsable de ses activités, dominium. Donc l'aspect éthique, l'aspect philosophie première. Et comme on avait dit tout à l'heure, philosophie de l'art. C'est la personne qui a conduit, c'est la philosophie de l'art qui a conduit à la dignité. C'est la philosophie politique. Les maîtres, magistrés, ceux qui ont une fonction d'exercer l'autorité. Donc, il y a aussi un lien avec l'autorité. C'est normal. Seule la personne est le lieu de l'autorité. C'est pas la nature, c'est la personne. Et tout ça se conjoint autour de la personne. C'est ça qui est difficile à saisir. D'un seul regard. Vous voyez bien que c'est un tout. Vous n'avez pas l'intuition de la personne. Voyez ces éléments. Alors, on comprend très bien qu'on insiste davantage sur tel aspect.